France Bleu Nord, 100% foot, Tribune Nord, Adrien Bray.
Tribune Nord exceptionnelle, évidemment, on n'est pas lundi soir entre 18h et 19h, mais il y a un match ce soir, le LOSC face à Sturmgratz, 8e de finale. Retour de l'Europa League Conférence, 3-0 lors du match aller. Le plus dur a été fait pour les Lillois. Il va falloir finir le travail aujourd'hui. On va aborder évidemment différents enjeux de cette rencontre. Bah, les objectifs, tout simplement. Ce stade qui s'annonce creux également, 20 000 personnes. Ce sera peut-être le maximum de la soirée. Puis surtout les ambitions lilloises. Est-ce que Lille peut gagner cette Europa League Conférence? Ce sera aussi une des grandes questions entre 19h et 20h. Pour participer également à notre avant-match entre 20h et 21h, vous nous appelez au 03 20 55 89 89. Victorien sera au standard. L'occasion pour moi de vous présenter Alexis également à la réalisation de cette émission et nos invités qui arrivent avec Samir Gelzifi, le capitaine de l'Olympique Marquois Rugby. Bonsoir Samir.
Bonsoir Adrien.
Cédric Van Goten également, agent de joueur. Bonsoir Cédric.
Bonsoir.
Et on ira faire un tour au stade dans quelques secondes en compagnie de Sylvain Charlet. 3 buts à 0 lors du match aller. Un doublé de Jonathan David. Un but également d'Edon Zegrova sur un corner joué en deux temps. C'est l'importance d'avoir pris l'avantage lors de ce match aller. Victoire 3 buts à 0. Sylvain Charlet nous rejoint dans quelques secondes. Sylvain Charlet avec sa voix. Ah, il a fini son échauffement vocal. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous.
Ça répond bien là, on est pas mal, vous êtes bien, vous avez fait vos vocalises.
Ouais, j'ai fait ça tout à l'heure au bureau. C'est encore un peu éraillé, mais après, il faut que ça dure. Hein. On a quand même 5 heures de direct, donc ménagez-moi Adrien. Ménagez-moi, ouais, faites attention à moi.
Ménagez-vous, évidemment. Par contre, si j'espère voir des buts quand même, Sylvain, on va pas non plus avoir un 0-0 du dimanche soir, là, tout nul, parce que il faut que vous ménagiez vos cordes vocales. Hein. On veut voir des buts.
Oui, exactement.
Quand
même. Bah oui, on a envie d'avoir quelques buts. Au moins pour les points UEFA. Et puis pour entretenir la bonne dynamique avec les résultats positifs du LOSC. Et puis surtout bien préparer le match de Brest. Et après, le tout est de savoir avec quelle équipe on évoluera. Mais ça, on en saura plus dans la soirée. Mais voilà, on a aussi envie d'apporter un peu de plaisir aux supporters qui seront là. Ils seront pas nombreux. Ils seront à peine 20 000. Donc, On a hâte de vivre ça dans une ambiance qui sera peut-être, je pense, Adrien, un peu feutrée quand même ce soir.
Ouais, c'est possible. Cédric Van Goten, Samir Gelzifi sont avec nous. Lucas Aubin également est avec nous, monsieur communication de l'équipe de Tribune Nord. Bonsoir Lucas.
Bonsoir.
Sylvain, vous nous disiez 20 000 personnes. Ils sont où les 30 000 autres même qu'on pourrait faire venir au stade Pierre-Mauroy?
Je pense que ça ne les intéresse pas. Bon, après, vous savez, à Lille, il y a plein de choses à faire. Je pense que il y a plein d'autres choses à faire que le foot à faire quand on veut prendre un peu de plaisir, quand on veut s'adonner à ses loisirs. Et puis, il y a surtout un match aller qui a été plié avec ce score de 3 buts à 0. Il y a un adversaire forcément qui ne fait pas rêver parce que c'est pas un adversaire de Ligue des Champions. Donc, c'est quand même un peu décevant. Après, il y aura forcément toujours les fidèles, notamment ceux qui font les voyages en Coupe d'Europe. Mais voilà, il y a quand même une vraie frustration de ne pas voir un stade. Je vais pas dire plein. N'attendez pas à remplir le stade ce soir, mais allez, un petit 30 000 au moins. Mais ça ne sera pas le cas. Et avec un match en plus à 21h. C'est pas du 18h45.
Voilà, 18h45. Certains seraient arrivés en retard, peut-être, au coup d'envoi de cette rencontre. Cédric Van Goten, qu'est-ce qu'il faut comme argument au LOSC pour remplir son stade, au moins 60%?
Non, mais il y a aussi un phénomène de crise et le LOSC a fait là une opération spéciale pack 3 matchs pour Rennes, Lens et Marseille parce que c'est des gros masses pour eux en championnat. Et les gens qui vont au stade peu de temps en temps et qui ont fait l'effort sur ce pack-là pouvaient peut-être non plus ne pas faire l'effort pour aller voir un match de Coupe d'Europe qui semble sans enjeu sur le match retour, comme l'a dit Sylvain, même si c'est pas vrai, il y a toujours un enjeu.
Ouais, et puis 8e de finale de Coupe d'Europe quand même. Alors certes, c'est l'Europa League Conférence, mais on est déjà très exigeant. Alors Samir, l'Europa League Conférence, on la suit qu'à moitié.
Non, bah, je pense qu'ils vont, aborder quand même les choses sérieusement, même s'ils ont déjà fait un gros pas vers le prochain tour. Et quand on est sur le terrain, je pense qu'il y a pas de il y a pas de petit match, donc quand on a envie de gagner, enfin je pense qu'ils ont tous envie de gagner. Donc je pense aussi qu'ils feront tout pour.
Et sur les réseaux sociaux, j'ai vu certains supporters qui disaient comment nos joueurs peuvent être motivés sans qu'il y ait personne en tribune. Est-ce que c'est une explication, Lucas, ou est-ce que vraiment, comme le dit Samir, une fois que vous démarrez le match, vous oubliez un peu ce qui se passe en tribune?
Ouais, ils ont quand même été champions de France en 2021 sans spectateurs dans le stade. Donc je pense pas qu'un stade rempli soit vraiment la condition sine qua non pour avoir de la motivation, même si ça en rajoute, ça rajoute de l'adrénaline, je pense, aux joueurs surtout. Maintenant, voilà, on pointe un petit peu du doigt le problème du LOSC. C'est peut-être pas forcément un club avec un noyau de supporters comme peut l'avoir le RC Lens, avec un noyau à minimum 20 000, 25 000 spectateurs. Aujourd'hui, le noyau dur de supporters du LOSC, c'est une dizaine de milliers, 15 000 supporters. Ils seront sûrement là ce soir. Maintenant, c'est tout le... Voilà, le LOSC paye aussi, je pense, des gens pour essayer de remplir le stade et trouver des solutions pour le faire. Maintenant, voilà, un match 4-0, une Coupe d'Europe qui est peut-être un petit peu moins... 3-0, une Coupe d'Europe un peu moins flamboyante. Ça peut aussi expliquer le pourquoi du comment de ce faible nombre de supporters.
Donc, on va partir sur l'idée à peu près 20 000 supporters. L'Europa League Conférence, ça motive... On n'est pas sûr des 20 000, hein, encore. Samir, l'Europa League Conférence, dans ces cas-là, ça ne fait pas venir encore les supporters, ou alors faut quoi ? Faut arriver en demi-finale ?
Je pense que, de toute façon, plus ils franchiront des étapes, plus le stade sera plein. Maintenant, il ne faut pas oublier, je pense qu'il y a une grosse donnée qui est prise en compte, c'est le 3-0 à l'aller, pour moi, qui fait que aussi, forcément, les gens se disent que le match va être plié. Et puis, faut pas oublier qu'ils enchaînent avec des matchs de championnat. Donc, ils joueront certainement pas avec la même équipe. Parce qu'il y a des joueurs qui seront quand même un petit peu au repos, je pense. Donc ça fait moins rêver aussi les supporters.
De ne pas voir l'équipe type entière à fond. Okay. Cédric
Non, je suis d'accord, en rajoutant peut-être l'argument que ce n'est peut-être pas le tirage idéal non plus pour faire un stade plein. Parce que pour faire un stade plein, si en face il y avait une grosse équipe européenne, ça aurait aussi facilité les choses.
Sylvain Charlet, vous allez suivre cette équipe de Sturmgrad. Vous avez visité la ville jeudi dernier du côté de l'Autriche. C'est pas... Alors, c'est sexy pour les déplacements. Et par contre, à domicile, ça n'attire pas. Il faut que vous ayez une plus grosse équipe pour que les supporters se déplacent.
Oui, c'est vrai que... après, c'est la Ligue Europa Conférence. Mais bon, je vais faire crier certains supporters lillois qui sont à l'écoute. Mais imaginez ce match se disputer à Bollaert. Guichet fermé.
Ouais, mais parce que vous avez déjà un nombre d'abonnés plus conséquent.
Oui, et puis il y a quand même plus de passion. Il faut quand même admettre qu'en règle générale, à Pierre-Mauroy, il y a toujours une belle ambiance. C'est quand même hyper sympa à chaque fois d'avoir au moins 30 000 personnes. Mais vous savez, cette ambiance un peu électrique, un peu... ce contexte qui fait qu'il y a un match qui se prépare et on sent une effervescence autour du stade. À Lille, ça arrive, mais beaucoup moins souvent qu'à Lens, où voilà, il y a un véritable engouement populaire. Mais après, voilà, c'est lié aussi à l'histoire des deux clubs et à l'histoire des deux villes. Donc, ce n'est pas une surprise. Mais voilà, moi, je suis quand même un peu frustré que les joueurs n'aient pas plus de soutien ce soir. Il y avait encore beaucoup de places accessibles, forcément sur la billetterie aujourd'hui, des places qui étaient à une quinzaine d'euros a priori pour les moins chers.
Oui, là, il semblerait que le niveau 2 soit fermé. Alors, Sylvain, votre niveau, en quelque sorte, pour les journalistes, ne sera ouvert que pour vous et que pour les quelques Autrichiens qu'on a pu croiser en ville cet après-midi.
Ouais, exactement, ce sera ainsi. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais a priori, on est parti sur cette base-là.
Cédric, les quarts de finale, il y aura du monde quand même. Ça va attirer un peu plus. Non, ça dépend.
Non, il faut déjà aller en quart de finale. Pour vous, ça y est, c'est plié. Non, et il y a encore un match ce soir. Attention, hein, les amis, il faut être sérieux. Hein. Après, ça dépendra de l'affiche. Mais c'est vrai que logiquement, au plus les tours vont avancer, et normalement, au plus il devrait y avoir de monde. Parce que c'est toujours comme ça aussi.
Il y a plus que deux matchs. Hein.
C'est aussi toujours un peu comme ça en France. C'est pareil en Coupe du Monde, regardez les premiers matchs de l'équipe de France, c'est pas très suivi. Et au plus l'équipe avance dans les tours, et au plus il y a un engouement dans le pays, là ce sera vrai aussi. Si même s'il resterait potentiellement que deux tours avec des matchs à Lille, l'engouement va peut-être se faire au fur et à mesure.
En tout cas, c'est un vrai problème de fond, parce que, alors je vais parler en connaissance de cause, petite connaissance de cause, quand j'ai travaillé du côté de l'USL Dunkerque, on avait un gros problème de remplissage du stade. Mmh. On venait d'avoir un nouvel outil de 4500 places, on n'arrivait pas forcément à remplir au moins 1000 personnes dans le stade. Il y avait une logique de résultat négatif qui pouvait peut-être l'expliquer. Là, aujourd'hui, du côté du LOSC, ça tourne plutôt bien. Le club, l'équipe est en bataille pour la Ligue des Champions, ce qui n'est pas rien. Je pense que la Ligue des Champions, dans la tête des supporters, ça parle quand même. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que le stade n'est pas rempli ce soir.
Ouais, en tout cas, 20 000 personnes, grand maximum attendu ce soir pour ce match entre le LOSC et Sturm Graz. On continue d'en parler jusqu'à 20h avec nos différents invités, Cédric Van Goten, Samir Gelzifi et Lucas Aubin, Sylvain Charlet, en direct du stade Pierre-Mauroy.
France Bleu Nord, 100% foot, Tribune Nord, Adrien Bray.
Tribune Nord jusqu'à 20h évidemment, on se rappelle de ce match, de cette victoire jeudi dernier en Autriche pour les hommes de Paulo Fonseca. Je vous propose déjà de revivre les grosses actions de cette rencontre et notamment les quelques buts qui ont été marqués et commentés par Sylvain Charlet.
Bouadi lancé centre en retrait, David le but et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Jonathan David, 28e minute, passe en profondeur, appel croisé d'Ayoub Bouadi et à l'entrée des 5-50, passe en retrait pour le plat du pied de Jonathan David. Et tous les joueurs lillois à la 29e minute vont venir fêter ce but. Le 1-2, Angel Gomez, Haraldsson la frappe, but, oh là, dans la barre et David qui reprend le but. Deuxième but, 51e minute de jeu, on y est. On y est. Oh, la frappe d'Haraldsson. La frappe d'Haraldsson. Il a envoyé une mine. Pied droit, balle intérieure du pied, sous la barre transversale. Et c'est Jonathan David qui, après le rebond sur la barre, ce ballon n'était pas rentré a priori, est venu récupérer cette balle. Et il double la mise. Il double la mise, Jonathan David. 2-0. Oh là là, le bijou de Zegrova à la 71e. On pense qu'il va centrer. Il envoie sa spéciale frappe aérienne, pied gauche enveloppé. Et là, Jaros, et il est aux pâquerettes. Il la voit pas retomber. Et pom, dans sa lucarne. Elle retombe dans la lucarne. Et c'est terminé. Ça se termine là-dessus, Adrien. Victoire. 3-0 du LOSC qui est quasiment qualifié pour les quarts de finale de la compétition. Il faudra gérer au mieux le match retour.
Lucas Aubin, Samir Gelzifi, Cédric Van Goten autour de la table. Sylvain Charlet au stade Pierre-Mauroy. Messieurs, j'ai entendu le quasiment qualifié de Sylvain Charlet dans ce commentaire. C'était jeudi soir. Cédric, vous m'avez repris également il y a quelques instants. Quels enjeux autour de cette rencontre ce soir? Victoire 3-0 la semaine dernière en Autriche. Est-ce que vraiment pour vous, il y a un enjeu sportif sur la suite?
Bien sûr, et on l'a vu avec Lens. Lens, à la mi-temps à Fribourg, il pensait se qualifier. Non, un match, tant que ce n'est pas fini, tant que l'affaire n'est pas pliée, il y a toujours un danger. En plus, je pense qu'on aura une équipe en face revancharde par rapport à ce qui s'est passé au match aller. Et puis Lille, comme le disait tout à l'heure Lucas, se doit d'entretenir une dynamique positive. Donc, il faut le prendre au sérieux, ce match-là.
Donc, il y a un vrai enjeu sportif de votre côté, Samir Gelzifi. Vous pensez qu'il y a encore un doute sur cette qualification ou pour vous, au vu de ce qu'on a vu des deux équipes au match aller?
Je pense que le doute existe. De toute façon, dans le football, tout peut arriver. On l'a déjà vu auparavant. Maintenant, ils ont fait une grosse partie du boulot quand même. Et s'ils abordent les choses de manière sérieuse, je pense que il y aura la qualification au bout.
Lucas Aubin, des doutes ou pas spécialement sur la qualif?
Des doutes, non. Après, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut que les joueurs de Lille aient de la confiance, mais pas de la suffisance. Parce que c'est avec de la suffisance que le pire pourrait malheureusement arriver. Aujourd'hui, ils arrivent avec de la confiance. Peut-être que Paulo Fonseca peut se permettre de faire tourner, de donner un peu de temps de jeu aux jeunes. Ce serait aussi la logique, parce que quand on gagne 3-0 à l'aller, on peut peut-être se permettre de faire tourner, de donner de la confiance à des joueurs qui ont un temps de jeu un peu moindre ces derniers temps. Mais voilà, il faut le prendre au sérieux et il faut surtout s'en servir pour continuer un petit peu dans cette dynamique positive que le LOSC connaît en championnat.
De la confiance, pas de la suffisance. Il devrait écrire ça, Paulo Fonseca, je pense, aujourd'hui, sur le tableau blanc pour appeler à ses joueurs.
Ben, il l'a peut-être fait.
Il l'a peut-être fait.
Lucas lui a peut-être soufflé au téléphone dans la journée.
En portugais.
vous parliez également d'une rotation d'équipe, justement. Est-ce que ça fait partie des enjeux de faire... alors, je vais me tourner un peu sur la jeunesse qu'on voit apparaître avec Boadi, avec Bazier, par exemple, qui seront dans le groupe, notamment. Hichem Ferra également sera là. Samir Gelzifi, c'est un enjeu aussi de ce match de faire tourner un petit peu l'effectif, surtout de se tourner vers les jeunes. Alors que justement, si on a des petits doutes sur l'impact mental de ce match, c'est peut-être sur la...
Je pense qu'il le fera et il aura peut-être bien raison de le faire, parce que aussi les jeunes auront plus à cœur de faire les choses que peut-être les joueurs confirmés. Donc je pense qu'il fera jouer les jeunes. Et moi, pour les avoir rencontrés, ces jeunes-là, c'est quand même des joueurs de qualité. On l'a vu au match aller avec le petit Boadi. Donc je pense qu'il le fera et il aura raison de le faire.
Vous avez rencontré en National 3 avec l'Olympique Marquois.
Exactement.
Donc il y a un potentiel, vous voyez que c'est...
Ouais, quand même, Boadi, match aller, quand même très fort. Hichem Ferra, pareil. Franchement, de très bons joueurs.
Bah, ce ne sera pas Kladzvik. Ce ne sera pas un bouleversement de fond en comble. Moi, je vois plutôt 4 changements. 5 à la limite, et encore, pas forcément par des jeunes, parce que si on décide de faire souffler Santos, qui joue beaucoup trop dernièrement, ne sera pas remplacé par un jeune, ce sera Diakité qui passera à droite. Pareil, au milieu, si on fait souffler Angel Gomez, ce sera peut-être pour remettre dans le circuit Cabella, qui n'est pas jeune du tout. Et devant, on pourrait imaginer remplacer David par Yazicis, pas non plus très le petit jeune de ce week-end dernier, j'arrive jamais à
retrouver.
Dago. Voilà, vous voyez, c'est pas Dago, c'est pas Ferra. Mais c'est pas Diago, c'est pas Ferra, c'est pas Brasier, c'est Yazici.
Effectivement, et on fera la compo dans quelques minutes maintenant. On essaiera de dessiner notre propre compo. L'info, Vito Manon sera lui titulaire, mais on en reparle dans une dizaine de minutes maintenant.
Tribune Nord, le chiffre de la semaine.
Tribune Nord jusqu'à 20h, le chiffre de la semaine, ce serait la première. Premier potentiel quart de finale européen des Lillois. Je ne sais pas ce que ça vous fait, messieurs, d'y penser, de revenir dans les vieux souvenirs de 8e de finale, de Ligue des Champions, d'Europa League. Mais ça me paraît, pour le LOSC, être assez surprenant de ne jamais avoir vu ce club en quart de finale de Coupe d'Europe. Lucas, je me tourne vers vous. C'est quand même Europa League Conférence, ça serait normal, non ?
Oui, après, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, notamment, le LOSC n'a pas toujours eu la chance de tomber sur des adversaires peut-être à son niveau. Je me rappelle de Chelsea, je me rappelle de Manchester United aussi.
Exactement,
les deux seules fois en 8e de finale. C'est quand même compliqué de se qualifier contre des équipes comme ça. Alors aujourd'hui, on ne s'en rend peut-être pas assez compte, puisque justement, peut-être que cette Europa League conférence souffre un petit peu de l'image d'une Coupe d'Europe de seconde zone, voire de troisième zone. Mais ça reste une Coupe d'Europe qui est jouée par des clubs comme le Fenerbahçe, comme la Fiorentina, et dans les championnats respectifs italiens ou turcs, le Fenerbahçe et la Fiorentina, c'est pas des clubs de seconde zone. L'Ajax Amsterdam,
Aston Villa
qui joue le top 4 ou le top 5 en première ligue. Donc voilà, il faut relativiser, il faut ouvrir un petit peu les yeux et se rendre compte que les Lillois ont l'occasion là d'écrire une vraie page de l'histoire du club.
Samir Gelzifi, premier potentiel quart de finale du LOSC en Coupe d'Europe. Moi, ça m'a paru fou de me dire ils n'ont jamais réussi à le faire. Il serait temps, là, c'est l'occasion.
C'est clair, avec un gros club comme Lille, c'est clair que c'est la première, il faudra la savourer. Et puis, effectivement, je rejoins ce que dit Lucas sur les précédents matchs, les précédentes rencontres en Ligue des Champions avec Chelsea et Manchester United, où ils ont eu des tirages plutôt difficiles. Aujourd'hui, il y a, je pense, un Ajax, Aston Villa.
Aston Villa, Ajax, ouais. 0-0 à l'aller.
Espérons pas tomber sur ça au prochain tour, parce que ça risque d'être compliqué. Mais bon.
Messieurs, j'ai regardé un petit peu le classement UEFA, parce qu'on dit souvent que le LOSC, où on a eu beaucoup en début de saison, que le Racing Club de Lens ne ramènerait pas de points UEFA, etc. Et que le LOSC, souvent, était un peu comme l'OM, n'a pas forcément ramené beaucoup de points au classement UEFA pour la France. Déjà, à savoir que cette saison, La cinquième place de la France est validée. Les Pays-Bas ne pourront plus revenir après l'élimination hier du PSV en Coupe d'Europe. Il ne reste plus que l'Ajax comme seul candidat néerlandais. Et c'est vrai que je vous pose la question, c'est une petite colle. Est-ce que vous savez...
Le
podium des meilleurs clubs français à l'indice UEFA aujourd'hui. Vous le savez ou pas?
Ça doit être du PSG en 1...
Vous pouvez l'aider, hein, messieurs, vous l'abandonnez aussi.
Ça doit être du PSG en 1. Il doit y avoir l'OM. Quand même du l'OM parce qu'ils y vont régulièrement, pas forcément très loin, mais régulièrement. Et Lyon,
Rennais.
Peut-être, qui doit garder un vieux fond de points.
Ils ont encore la demi-finale le Big Four, le Final Four de Ligue des Champions, c'est vrai. Donc, ils sont juste derrière le LOSC Lyon.
Ah, et donc Lille est troisième?
Non.
Le Stade Rennais?
Lille est deuxième.
Lille est deuxième.
Vous enlevez le PSG, Lille est
comme
le meilleur
quoi, on
club
pas
français.
Si chauvin que ça. Hein.
Moi, je l'étais un peu parce que il y a une place d'écart au niveau européen. Ouais. Lille est 44e, Lyon 45e, Marseille 46, Rennes 47.
Ah ouais,
donc je vous piégeais un petit peu, mais quand même, ça prouve aussi la régularité du LOSC parce que là, dans deux ans, le LOSC aura toujours à peu près autant de points, alors que justement, l'OL perdra tous ses points.
Parce que ils ont eu souvent des Coupes d'Europe. Ils ont eu souvent des Ligues des Champions qui ramènent pas mal de points puisque c'est des phases de poule. Mm-hmm. Vous faites plusieurs matchs. Malheureusement, ça s'est arrêté plutôt vite parce que dès qu'on passe les phases de poule, on tombe sur des gros qui, des fois, tirent les coups francs alors que l'arbitre n'a pas sifflé, comme Manchester
2007.
Et même quand ils ont été en Coupe de l'UEFA, finalement, quand ils sont passés dans des éliminations directes, c'était des gros comme l'Ajax ou le PSV Eindhoven.
Il y a eu Séville en 2006, voilà. Liverpool en 2010 aussi. Donc,
aussi.
Encore une fois, des grosses équipes.
L'Europa Conférence n'existe pas. Pas très longtemps, et donc c'est la première fois qu'ils la jouent, et c'est un truc qui leur correspond mieux. Alors, ça paraît moins glamour parce que c'est souvent des petits pays, mais semblant de rien, là, quand on arrive aux portes d'écart, il reste des belles équipes.
Effectivement. Sylvain Charlet est avec nous également du côté du stade Pierre-Mauroy. Sylvain, vous allez peut-être commenter un match historique. Alors, le premier quart de finale du LOSC en Coupe d'Europe, on a toujours du mal à y croire.
On a du mal à y croire. C'est vrai que moi, quand j'avais fait les recherches un peu comme vous, je m'étais dit ça a dû arriver au moins une fois. Mais non. En fait, il y a eu deux huitièmes de finale en Ligue des Champions. Alors, ça reste déjà un très très bon résultat d'attendre deux fois les huitièmes de Ligue des Champions et d'être battu par des cadors anglais, Manchester United et Chelsea. Et puis il y a quatre matchs en Coupe UEFA avec des confrontations, notamment dans mon souvenir, face à Séville, face à Liverpool. Donc à chaque fois, Lille n'a pas été vernie au tirage. Donc après, ça n'a beau être.
On l'a oublié, mais il y a eu Auxerre en 2005.
Exactement. Donc, je trouve que ça a une vraie saveur d'être là. Ça reste une Coupe d'Europe, même si c'est la Ligue Europa Conférence, même si les clubs adverses ne font pas rêver. Voilà, moi j'ai le souvenir des Coupes d'Europe avant, avec la Coupe des clubs champions, la Coupe UEFA, la Coupe des vainqueurs de coupe.
Vous savez ce que c'est la C2 matchs. Alors, Sylvain, expliquez-nous, parce que là, on parle de C4, Ligue Conférence, mais il y a C2, il a disparu.
On a appelé ça la C4 parce qu'en effet, il y avait déjà eu la C2, j'imagine, auparavant. Quand vous gagnez la Coupe nationale, vous aviez le droit de participer à cette compétition avec tous les autres vainqueurs de Coupe nationale. Donc voilà, c'était aussi parfois une compétition où il y avait un peu moins de cadors, mais ça reste une Coupe d'Europe. Et puis n'oublions pas le palmarès des clubs français dans l'histoire des Coupes d'Europe. On est loin, on est mauvais. Donc si on peut gagner une C4, allons-y. Donc un peu d'engouement pour ça, et moi j'ai hâte de voir cette équipe passer ce huitième de finale, aller en quart de finale, même si ce n'est que la C4.
Non, mais c'est ce que j'allais dire finalement, qu'on élargit à l'ensemble des clubs français, parce qu'en Coupe d'Europe on supporte tous les clubs français quels qu'ils soient, mis à part l'OM qui a gagné la Ligue des Champions, et mis à part le PSG qui a gagné la fameuse C2 dans les années 90, après c'est le désert quoi, donc il ne faut pas non plus galvauder son plaisir.
Et il y a eu quelques finales aussi pour le PSG et l'OM uniquement. Oui, c'est vrai.
Bah ouais.
Ouais, et puis c'est pour ça, moi je suis un peu déçu du manque d'engouement de beaucoup de supporters lillois, de ok, il y a 3-0 du match aller, mais c'est la Coupe d'Europe. Enfin, après voilà, c'est vrai qu'on a droit à tellement de choses aujourd'hui pour se faire plaisir. C'est vrai qu'avant dans le football, bah voilà, moi quand j'étais gamin, j'attendais avec impatience les matchs de C2, les matchs de C3 qui animaient tous nos après-midi le mercredi de football. Donc je suis un peu frustré par rapport à ça. Donc j'espère vraiment que les joueurs vont aller chercher cette qualification. Et voilà, et écrire une nouvelle page de l'histoire du club, parce qu'aujourd'hui on en est à 135 matchs européens disputés par le LOSC. Et donc voilà, on attend avec impatience cette grande première. Elle est symbolique, mais ça reste une grande première.
Vous échangez vos petites cartes Panini également avant les matchs, Sylvain, qu'on se remémore un petit peu.
Bien sûr. Mais exactement. Je me rappelle aussi de l'époque de l'Euro 84 où on n'avait pas encore les Panini. Il fallait coller, vous savez, avec les vieux tubes de colle, il fallait coller nos photos sur notre cahier de match.
Donc, c'était pas autocollant.
C'était magique. Eh non. Vous savez, j'ai vécu à une autre époque, monsieur.
Je comprends. J'ai l'explication, Sylvain. Vous savez, ils ont les supporters ont préféré rester chez eux pour vous écouter. C'est ça la vraie explication.
Ah ben voilà. J'espère qu'ils vont pas être déçus.
Petit point ambiance justement, Sylvain, une heure et demie maintenant du coup d'envoi.
C'est nul, c'est le néant. Bon, après je pense que les portes ne sont pas encore ouvertes, donc ça ne va pas tarder à rentrer, mais voilà, si l'ambiance commence à monter, ça va être un quart d'heure avant le coup d'envoi. Donc voilà, c'est un peu triste, j'ai l'impression d'être dans l'avant-match d'une rencontre à huis clos. Mais bon, ça va venir.
Cette époque Covid, match à huis clos, tous les week-ends. Lille-Sturmgratz, coup d'envoi, 21h, Tribune Nord jusqu'à 20h, évidemment, autour de la table. Lucas Aubin, Samir Galzifi et Cédric Van Goten, Sylvain Charlet, en direct du stade Pierre-Mauroy. Mehdi Zegouin vous rejoindra dans une bonne demi-heure maintenant, votre consultant pour cette rencontre, le coach de Wascal.
France Bleu Nord, la radio pour suivre tous les matchs du Racing Club de Lens.
Match de haut de tableau, match important pour les 100 et or, samedi. Lens-Nice, le 5e, qui reçoit le 6e de Ligue 1. Les Lensois, qui restent sur 2 victoires consécutives, notamment face à Brest, le Dauphin, la semaine dernière, reçoivent des Azuréens, qui ont perdu, eux, à domicile, face à Montpellier. Match au sommet, donc, Lens-Nice, c'est samedi à vivre ensemble, dès 20h30 sur France Bleu Nord.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Nord, ici, on parle d'ici.
19h31 sur France Bleu Nord.
France Bleu Nord, 100% foot, Tribune Nord, Adrien Bray.
Et je suis loin d'être tout seul, Sylvain Charlet, en direct du stade Pierre-Mauroy, autour de la table. Cédric Van Goten, Samir Galzifi et Lucas Aubin sont avec moi également. Messieurs, on va se tourner un petit peu vers la composition d'équipe de ce LOSC opposé à Sturmgratz ce soir. Coup d'envoi 21h. Le boulot a été bien fait du côté de Graz déjà lors du match aller. Il va falloir continuer lors du match retour. Et on va essayer de dessiner un petit peu cette compo qui pourra avoir tourné. Sylvain Charlet, vous l'avez entendu des propos de Paulo Fonseca déjà, dès le poste de gardien de but, on a du changement.
Oui, puisque Vito Manon va débuter ce match. Alors vous le savez, ce n'est pas un 4-4-2 au LOSC, c'est un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, mais actuellement on est plus dans la mode du 4-3-3. Après, je pense qu'on va peut-être revenir au 4-2-3-1, puisqu'on va peut-être faire aussi un peu le jeu. Donc Vito Manon dans le but, oui, ça c'est un petit cadeau, Adrien, que le coach a fait à son numéro 2, parce qu'il considère qu'il fait un super boulot, il a un très bon état d'esprit, et puis à chaque fois qu'il a joué, il a été bon, Vito. Donc c'est bien de lui laisser cette chance, sachant qu'en plus on a Lucas Chevalier, petite parenthèse, qui a eu aussi une belle nouvelle aujourd'hui, puisqu'il a été appelé pour jouer les deux derniers matchs amicaux de l'équipe de France Espoir. Il a l'âge pour jouer les jeux, ce qui n'était pas le cas sur les qualifications de l'Euro. Il sera avec les Bleus cet été, avec Diakité et avec Yoro pour Lille, et avec Andy Diouf et Eli Wahi, les Lensois. Ça parlera derby. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc voilà, Vito Manon, titulaire déjà pour le gardien.
On compte également 5 absents. Côté blessure, Thiago Moraes, Raphaël Fernandez, Illich, Samuel Umtiti et Adam Ounas. Miramon, de son côté, a fait son retour dans le groupe, Sylvain. C'est bien ça.
Oui, exactement. Donc, ouais, des blessés de longue date. Illich, le Péroné, on n'est pas prêt de le revoir tout de suite. Umtiti, ça risque d'être compliqué aussi pour la fin de la saison. La véritable interrogation, après, c'est pour Thiago Moraes et Raphaël Fernandez qui sont arrivés au Mercato, qui ne sont pas encore aptes, qui ne sont pas encore prêts à être titulaires dans cette équipe. Espérons qu'ils seront rapidement de retour pour au moins intégrer un peu la rotation et aller chercher quelques titularisations d'ici la fin de saison.
Allez, on se dessine cette composition probable de Paulo Fonseca, on se dirige vers un 4-2-3-1, alors on va dire un milieu meneur de jeu devant une paire un peu d'essuie-glace un petit peu plus bas. Messieurs, on commence par la défense. Quelle est la défense, Eric Van Goten? Vous me disiez tout à l'heure que Thiago Santos avait peut-être beaucoup de temps de jeu et qu'un peu de repos lui ferait pas de mal. Donc,
tout à fait.
Diakité
à droite et puis le reste de la défense classique avec peut-être Gudmundsson à gauche plutôt qu'Ismaili.
Ouais, donc dans l'axe, pas de doute, Alexandro Yoro parce que Diakité à droite. Ouais. Samir,
ouais.
Pareil.
Ouais, pareil.
Ismaili
à gauche.
Et Ismaili à gauche.
Identique en défense centrale. De toute façon, le coach n'a pas trop le choix. Et moi, je vois aussi peut-être Gudmundsson à gauche et Bafodé Diakité qui a peut-être aussi besoin de reprendre du rythme sur un match en tant que titulaire depuis son retour de blessure.
Gudmundsson présent en conférence de presse hier. Pourquoi vous préférez Ismaili, tiens, Samir, le Brésilien?
Ah non, c'est parce que je préfère. Je pense qu'il va mettre Ismaili pour une continuité.
Il n'y a
pas beaucoup de choix.
De votre côté, Cédric, vous m'avez dit Gudmundsson, Ismaili.
Gudmundsson, parce que Ismaili joue moins en ce moment. C'est peut-être dur à 33 ans d'enchaîner et il y a un gros match ce week-end.
Justement, est-ce qu'il y a un débat sur qui est le réel titulaire? Il y a parfois des petites blessures pour Ismaili. Est-ce que tout doucement, c'est en train de s'inverser ou Ismaili, tant qu'il est là, il reste devant?
Pas vraiment, parce que finalement, il joue aussi souvent tous les deux. Et depuis un mois et demi, depuis le match du PSG, finalement, ils jouent aussi des fois tous les deux l'un devant l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment concurrence pour les deux, parce qu'ils ils se remplacent en cours de match ou ils jouent en deux en même temps.
C'est bien géré, alors, de la part de...
Ouais. Mais ils ne se trompent pas, Fonseca. Depuis, regardez bien cette saison, mis à part Toulouse, autrement, tout ce qu'il fait, ça marche. Mis à part Toulouse, j'avais peut-être un son match aller. Mais autrement, tout lui réussit. Donc,
et le petit Miramon à Lorient aussi. Ça a un peu plombé quand même.
Ça, c'est pas de sa faute. Je veux dire, l'autre, il fait une passe. C'est pas pour me rassurer qu'il revienne ce soir en gros. Ah. Là, vous me titillez, Adrien.
Ben justement, on passe au milieu de terrain, justement. Miramon fait son retour dans le groupe, certes. Est-ce qu'on fait tourner un peu André Le Gomez? Est-ce qu'on fait tourner un petit peu Benjamin André? Samir, votre milieu de terrain?
Je pense Bouazi et Bentaleb.
Boadi et Bentaleb, expérience et jeunesse en même temps, vous validez, Lucas?
Oui, je valide, je pense que Benjamin André, ça peut lui faire du bien aussi de temps en temps de se reposer un petit peu. Et pareil pour André Le Gomez, et Bentaleb a besoin de jouer, Boadi aussi. Et puis il a besoin de confirmer aussi le jeune Boadi qui a fait un bon match la semaine dernière.
C'est sa compétition en fait, le petit Boadi. On l'a découvert face à Klaksvík, il a joué plusieurs... Non, on l'avait même découvert avant face à Bratislava, il me semble.
Non,
Klaksvík, le premier, Klaksvík match aller.
Là-bas, là.
Et en championnat, il avait pris un carton rouge aussi rapidement.
Mais ça, c'était bien après. Moi, je vois plutôt Boadi André.
Voilà. Boadi André, donc ouais. On ne fait jamais souffler Benjamin André.
Il l'a soufflé quand il était suspendu à Toulouse. Et c'est quand même le joueur qu'il vaut mieux avoir. On met d'abord lui et tous les autres autour.
Même aujourd'hui?
Même aujourd'hui. Parce qu'il faut aussi maintenir comme ça, en vue de Brest, un état physique du joueur.
Allez, pourquoi pas Benjamin André, petite pièce. Donc, pour vous, c'est Benjamin André et Boadi. Ok, donc le joueur devant, si j'ai bien compris, fait tous les trois souffler André Le Gomez, qui est le meneur de jeu, ce milieu axial un peu plus offensif. Ce serait qui?
Pour moi, la logique, ce serait de donner du temps de jeu à Rémi Cabella, qui revient de blessure et qui a besoin aussi de retrouver du rythme et un peu de souffle aussi.
Cabella, c'est son poste, Samir aussi.
Ouais, je pense qu'on part sur ça.
Et surtout de la confiance.
Ouais.
Ouais, pas pareil, il faut le remettre dans le circuit, surtout que son entrée contre Rennes a été prometteuse. Donc profitons et jouons sur la confiance qu'il retrouve.
Effectivement. Et donc les deux milieux offensifs excentrés, on va les appeler comme ça, les deux ailiers, en quelque sorte, je peux vous citer peut-être Gudmundsson si Ismaili est titulaire. Mmh. Je peux vous citer également Ekan Haraldsson, peut-être Youssouf Yazici. Est-ce qu'on met Hichem Ferra? Pourquoi pas une surprise, même si c'est pas vraiment son poste, c'est plus un axial. Mais c'est vrai que vous mettez qui à gauche dans ce cas-là?
Haraldsson commence à trouver un bon rythme de croisière. Ce serait peut-être dommage de le couper dans son élan. Donc, à mon avis, lui, il va être sur la grille de départ.
Lui, il a besoin d'enchaîner.
Ouais.
Samir,
oui, je suis d'accord.
Haraldsson qui enchaîne.
Oui,
on continue. Il est sorti en plus à l'heure de jeu.
On pourrait avoir une coquetterie, par contre. On pourrait avoir Haraldsson dans l'axe et Cabella sur le côté.
Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Ce serait pas fou non plus.
Alors là, parce que là, vous savez, bon, Sylvain est parti prendre un petit café, je crois, il a besoin de se réchauffer un petit peu les cordes vocales, mais ça lui plaît, Haraldsson en 10. Est-ce que vous avez envie de le voir comme ça? Cabella s'adapterait plus facilement au côté gauche, alors?
Après, Cabella, il aime bien jouer à l'intérieur aussi. Hein.
Ben oui.
Ouais, c'est ça. Puis Cabella, je pense que c'est le type de joueur qui, en forme et en pleine possession de ses capacités, peut jouer partout. Mmh. Il est capable de faire le jeu à gauche, de faire le jeu au milieu. S'il est sur le côté gauche, on sait très bien qu'il va rentrer dans l'axe et qu'il va essayer d'aller trouver des passes entre les lignes vers Jonathan David. Donc voilà, je pense que Cabella est peut-être plus capable de s'adapter que Haraldsson.
Et sur le côté droit, Zegrova est disponible. Adamounas, je ne sais plus. Non, Adamounas
n'en
est pas.
Ouais.
Donc est-ce qu'on continue avec Edon Zegrova? Est-ce qu'on fait souffler? Est-ce qu'on tente un jeune à sa place?
Moi, je pense qu'il va débuter, mais il ne fera pas tout le match. Il fera 55 minutes si tout se passe bien. Puis après, on le fera souffler.
Ok. Donc
logique, pardon, voudrait peut-être plutôt de faire rentrer les jeunes en cours de match plutôt que de les lancer en tant que titulaire.
En ayant déjà peut-être ouvert le score déjà.
Voilà, c'est ça.
Samir, pareil.
Ouais, c'est ça, et gagner plus de temps, même si ça fait 0-0. Mais je pense que si on est vers la 60e, on a plus de facilité à
Une demi-heure de temps de jeu. Pourquoi pas Youssouf Yazici à droite et Jonathan David en 9?
Je pense que Yazici sera en 9, en faux 9, comme il l'a fait plusieurs fois dans la saison, pour permettre à Jonathan David de souffler, puisque malheureusement, le joueur qui est arrivé Ilic au mois de janvier s'est fait le perronner à son premier match. Et donc, les solutions qu'on pensait avoir, on ne les a plus. Donc, il faut gérer autrement.
Donc, Jonathan David sur le banc et Youssouf Yazici en 9. Messieurs, reste là-dessus. Non, vous n'êtes pas sûr, Lucas.
Je ne sais pas. On verra. On aura la surprise. Mais c'est vrai que Jonathan David, il est en pleine bourre. Il peut tirer du vestiaire. J'ai l'impression que ça va finir dans la lucarne. Donc, pour moi, ça me paraît quand même difficile de s'offrir le droit de le mettre sur le banc. Après, c'est vrai que d'un point de vue récupération, lui qui est un joueur qui donne beaucoup à chaque match, surtout qu'on sait que le LOSC va jouer le dimanche à 13h, si je ne me trompe pas, ça n'a pas changé.
Exactement.
On reste à refuser. Donc c'est vrai que voilà. Ou alors peut-être le faire jouer qu'une mi-temps en fonction de l'évolution du score. Je pense que l'évolution du score à la mi-temps va beaucoup jouer sur les changements en cours de match.
Et on pourrait voir également donc Ferra, Bazier ou encore Ivan Cavallero qui a fait son retour dans le groupe, peut-être sur le poste de d'ailier gauche en fin de match.
Les speed débats de Tribune Nord.
Ah là, speed débat, très très rapide. Sturmgratz. 3 minutes, hein, grand max. Je pense qu'on va vite faire le tour. Cédric Van Goten, Samir Gelsifi, Lucas Aubin. Sturmgratz, on s'attend à quoi de cette équipe? Sylvain pensait la semaine dernière qu'en termes d'intensité, en écoutant Paolo Fonseca, hein, c'est ce que nous disait le coach en conférence de presse, il y aurait beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, une relance très verticale du jeu, très rapide. Bon, Samir, on a été un peu déçu là-dessus. Est-ce qu'ils peuvent vraiment nous surprendre aujourd'hui ou est-ce qu'on va avoir le même Sturmgratz que jeudi dernier?
Je pense qu'ils montreront une meilleure image, un peu sans pression. Là, le score est de 3-0. Mais après, de toute façon, on va attendre ce soir pour voir. C'est vrai que coach Fonseca nous avait vanté cette équipe. On n'en a pas vu beaucoup.
Ben c'est ça, il nous a un peu vendu du... Soit il n'a pas bien regardé les cassettes, soit...
Non, moi je pense que c'est une équipe de valeur. Et c'est Lille, la façon d'avoir abordé le match aller et la façon d'avoir les avoir étouffés dès le premier quart d'heure qui a tué le match et qui a tué Sturmgratz. Mais c'est une équipe qui vaut bien mieux que ce qu'elle a fait au match aller. C'était pas se tromper sur la valeur de l'équipe qui est en face. C'est Lille qui a tué le match à l'aller.
Dès le début,
ouais. Okay.
Lucas, vous partagez cet avis?
Ouais, il faut toujours se méfier. On l'a vu avec l'équipe qui a éliminé Lens en Coupe d'Europe.
Fribourg.
J'ai un trou de mémoire. Fribourg. Voilà, après le match aller et la première mi-temps, tout le monde pensait que Lens allait l'emporter haut la main et tout le monde voyait Fribourg comme l'une des pires équipes de Bundesliga. Au final, on s'est tous trompés. Là, je pense que voilà, le LOSC s'est offert un superbe avantage. Maintenant, il va falloir faire attention parce que c'est vrai que dans ce type de rencontre, si un premier but arrive dans les 30 premières minutes, derrière, ça peut dérouler. Et il suffit que Voilà, ça fasse 1-0 à la 70e de 0 et puis derrière les jambes elles vont commencer à trembler. Donc il faut aborder ce match de manière sérieuse et très concentrée comme ils l'ont fait au match aller et normalement ça ne devrait pas poser de problème.
Mais vous pensez que Sturmgraz aujourd'hui est en mesure de potentiellement d'inverser la tendance?
Alors, inverser la tendance, je sais pas. En tout cas, ils essaieront de montrer un autre visage et ça ils le feront dès le début. On va sentir, à mon avis, beaucoup d'intensité.
Ils vont se libérer très vite pour lâcher les chevaux.
Ils vont être revanchards aussi, peut-être, parce que quand on prend une gifle, je tends pas l'autre joue, quoi. J'essaie de réagir. Donc, à mon avis, ils vont être revanchards. Et s'ils jouent sur leurs vraies valeurs et revanchards, il y a danger, toujours danger dans un match.
Et exactement, et ils auront des supporters, hein. J'en ai croisé pas mal cet après-midi, enfin ce midi, ils ont profité du beau temps qu'il y avait en ville pour se balader, donc ils seront également encouragés par quelques dizaines de supporters autrichiens qui seront présents ce soir pour ce match entre le LOSC et Sturmgraz.
France Bleu Nord, 100% foot, Tribune Nord sur France Bleu Nord.
Lille-Sturmgraz, coup d'envoi 21h, je vous le rappelle, 8e de finale, retour d'Europa League Conférence, 3-0, c'est le score en faveur des Lillois lors du match aller, un doublé de Jonathan David, un but également d'Edon Zegrova. Le LOSC pourrait atteindre pour la première fois de son histoire un quart de finale de compétition européenne, même si c'est la C4, ça se prend, on en a débattu il y a quelques minutes, on est tous d'accord avec cette idée. Je vais aller plus loin, parce que quart de finale, d'accord, mais ça remplit pas encore suffisamment le stade. Donc, il faut aller en demi pour que les supporters soient encore plus motivés. Et moi, il y a une finale à Athènes qui nous attend le 29 mai, qui me tente. Alors, la question, elle est simple, messieurs. Si je vais à Athènes le 29 mai, est-ce que je peux voir le LOSC? Est-ce que je peux voir le LOSC même soulever la coupe? Je m'enflamme un peu, Lucas Aubin. Est-ce que le LOSC est vraiment un candidat sérieux à la victoire finale?
En tout cas, quand on voit le nom des autres équipes qui sont encore en lice, ça reste des équipes, je pense, à la portée du LOSC. Après, sur des matchs aller-retour de Coupe d'Europe, c'est là aussi où on verra un petit peu la puissance du mental et de l'âme de cette équipe lilloise. Je pense qu'à un moment, quand on est capable de faire un parcours en Coupe d'Europe, on le fait. Et puis, on se prend au jeu aussi. Arrive au quart de finale, demi-finale, en fonction du... Il suffit qu'on on tombe sur un Aston Villa, on l'élimine, derrière, on a l'impression un petit peu d'être invincible et on se dit qu'on n'est plus très loin. Donc, je ne pense pas que ce soit irréalisable de voir peut-être le LOSC à Athènes en finale. Maintenant, ça va encore être très difficile parce que justement, je pense qu'en se qualifiant pour les quarts de finale, c'est une deuxième compétition qui va commencer parce que là, on va vraiment normalement rencontrer des équipes d'un niveau un peu plus, voire beaucoup plus supérieur à celui du Sturmgraz.
Le tirage, d'ailleurs, il aura lieu demain à 14h pour l'Europa League Conférence. Un petit mot d'ailleurs sur les matchs qui ont déjà commencé 0-0 dans 3 des 4 matchs. Hein. Pilsen, Servette, Genève, Fiorentina, Maccabi Haïfa 0-0. Fenerbahçe, l'Union Saint-Gilloise, 0-0 également. Le PAOK Salonique est en train de renverser la tendance. Par contre, avait perdu 2-0 à l'aller face au Dynamo Zagreb. Il y a 3-0 pour l'instant pour le PAOK. C'est la grosse sensation de ce début de
comme
soirée.
Comme quoi ça peut arriver.
Je le note. Voilà, vous avez marqué un point, Cédric Van Goten. Je pense que. Je vais rester dans mon rôle, messieurs. Justement, est-ce que vaut mieux chercher Aston Villa dès les quarts de finale maintenant, sachant qu'il n'y a plus de statut de tête de série, c'est possible de jouer des équipes du même pays alors que c'était pour l'instant impossible. Là, le tirage, ce sera un tirage intégral sur la suite, Lucas. Vous pensez que vaut mieux quand même une équipe comme Aston Villa ou l'Ajax?
Oui, après, il n'y a pas que Aston Villa, l'Ajax ou le Fenerbahçe. Hein. Vous parliez
de la
Fiorentina. Vous parliez du Maccabi Haïfa, si je ne me trompe pas. Il y a encore 2, 3 ou 4 ans, ça jouait contre le PSG en phase de groupe de Ligue des Champions. Donc, même des noms un peu moins flatteurs, ça reste des équipes de très haut niveau. Donc, je pense qu'à partir des quarts de finale, on va jouer de toute façon contre des équipes de haut standing. Et il va falloir y aller à fond la caisse et surtout, va falloir kiffer aussi le moment parce que si le LOSC écrit une nouvelle page de son histoire, il y a aussi une autre page à écrire derrière avec une potentielle demi-finale. Donc, il faut plus se poser de questions derrière.
Samir Gelzifi, on en parle de toutes ces équipes-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas une équipe où on se dit waouh, cette compète elle est pour eux, tellement ils ont l'air d'être un mastodonte. Là, il y a plusieurs équipes capables d'aller au bout.
Alors je vais revenir sur ce qu'a dit Lucas. Bah forcément, Lille sont capables d'y aller, même si faut faire attention parce qu'il y a le championnat qui reste une compétition qui est vraiment importante pour le LOSC. Et on sait très bien que le LOSC n'a pas cette largeur de banc, on va dire. Donc attention sur qui tomber au prochain tour. Je pense que si le LOSC tombe un Aston Villa, Fiorentina, toutes les équipes qu'on a citées, toutes les grosses équipes qu'on a citées, ça pourrait être, comme l'a dit Lucas, une deuxième compétition qui commence. Donc un peu plus de complexité. Ça va être plus dur en tout cas de faire souffler les joueurs. Donc,
ouais, il faut être efficace effectivement sur les deux tableaux, puisqu'il y a une compétition tous les week-ends également qui s'appelle la Ligue 1 où le LOSC est bien parti.
Mais c'est un peu le sens de l'interview d'aujourd'hui d'Azici qui dit quand on est dans une compétition comme ça, il n'y a pas d'état d'âme, on la joue pour aller le plus loin possible. C'est pas quelque chose qui vient en plus, c'est on la joue pour aller le plus loin possible. Et il dit aussi, et c'est ce qu'on est en train de se dire, qu'au plus les tours avancent et au plus ça devient motivant et au plus on a envie d'aller au bout de l'histoire, quoi.
Mais là, l'écrémage, il se fait et c'est les plus petits, entre guillemets, qui s'en vont, là. Donc, il reste plus que des
gros. Money time. Voilà, c'est le moment, à partir des quarts de finale, comme le disait Lucas, c'est une autre compétition. On va dire que normalement, il n'y a que les plus grosses équipes qui restent. Et donc, voilà, c'est là où... Mais peut-être que c'est mieux finalement. C'est peut-être mieux aussi de jouer une grosse équipe que de devoir jouer un Pilsen.
Vous faites pas de preuve de suffisance, quoi.
Mais non, c'est même pas ça. C'est
d'accord,
à la limite moins piégeux.
Pas une grosse équipe, d'accord.
C'est moins piégeux. On sait en face à quoi on s'attend. Et
on est plus concentré.
Voilà.
Plus motivé aussi. Mais c'est aussi, je pense, l'occasion pour le LOSC de montrer que le foot français a peut-être aussi sa place à ce stade d'une compétition européenne, parce que sur les dernières années, il y a très peu d'équipes, voire quasi aucune. Le PSG, ça fait 3-4 ans qu'ils ne sont pas passés le stade des huitièmes de finale.
Bah ouais.
Je pense que le dernier vrai parcours, c'était l'OM contre l'Atlético Madrid en finale de la Ligue Europa. Ouais.
Nice l'année dernière en demi-finale de justement cette Coupe d'Europe.
Voilà, donc c'est aussi l'occasion de montrer à l'Europe entière que le foot français compte aussi et qu'un club comme le LOSC a le niveau pour se retrouver à ce stade de la compétition et surtout qu'il n'aura pas volé sa place. Là, aujourd'hui, en faisant un 3-0 et en peut-être en gagnant 2-1, voire 2, voire peut-être 3-0 encore ce soir, ce serait aussi un message à envoyer aux autres équipes en montrant que voilà, Aston Villa, etc., c'est bien beau, mais nous, on est le LOSC et on existe aussi.
Au final, oui, les adversaires aussi, ils ont envie d'éviter peut-être le LOSC au prochain tour.
Ah, mais oui.
Et puis, il y a d'autres enjeux. Regardez, Diouf, l'année dernière, qui est le meilleur jeune de la Coupe Conférence. Pourquoi cette année, Euro, en allant très loin, ne serait pas meilleur jeune de la Coupe Conférence, quoi. Peut y avoir des choses comme ça aussi, comme motivation.
C'est aussi une manière de se montrer. On annonçait les 9 euros du côté du Real Madrid. Peut-être que pour ces joueurs-là, il y a d'une, l'envie de se montrer sur la scène européenne, et de deux, bah voilà, peut-être la connaissance du côté du Euro, peut-être qu'il sait déjà que c'est sa dernière saison, c'est ses 6 derniers mois avec le LOSC. Et il a peut-être aussi envie de montrer, de finir en beauté.
Alors là, pour le coup, ce qu'il compare à Varane, s'il va au Real, ça continue la comparaison. Là.
Effectivement, c'est former des grands défenseurs centraux. Pour rappel également, le PSG est en quart de finale de Ligue des Champions. À une demi-heure près, 45 minutes peut-être, l'OM prend la direction également des quarts de finale d'Europa League, puisqu'ils perdent 1-0 pour l'instant face à Villarreal, mais qu'il y a eu 4-0 pour les Marseillais au match aller, et qu'il y a eu donc 3-0 pour les Lillois lors du match aller d'Europa League Conférence face à Sturm Graz. Le retour aura lieu dans un peu plus d'une heure. Sylvain Charlet est avec nous rejoint dans Tribune Nord avec Cédric Van Goten, Samir Galzifi, Lucas Aubin. Sylvain Charlet, est-ce que vous avez noté une ville qui vous plairait particulièrement pour les quarts de finale, si le LOSC, parce que j'ai compris la prudence de Cédric Van Goten, si le LOSC passe quand même en quart de finale. Attention, ce n'est pas joué.
Alors, je vais être tout à fait honnête. Moi, je choisis les villes pour l'intérêt touristique. Au-delà de l'intérêt footballistique.
Donc Pilsen, donc, par exemple, là, ça vous tente?
Non, Pilsen, non. Non. C'est l'endroit où on crée la Pilsen, la bière, on est bien d'accord. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai des retours déjà, priori, c'est pas joli.
Ils vous serviront d'autres boissons si vous demandez autre chose en Autriche, en Serbe, Sylvain, il n'y a pas de problème.
c'est en Serbie, hein, Pilsen? C'est un doute sur... C'est pas Bulgarie?
J'ai un petit doute. Je vais vérifier ça, tiens.
Ouais, vérifier.
Bonne question. Non, c'est en République tchèque.
À République Tchèque, ok. Ah,
voilà. Vous aimez bien Florence, bah voilà, comme je vous vois partir à Florence.
Ah bah oui, Florence,
très, très belle ville.
Ah, Florence, pour entretenir ma relation amoureuse avec mes confrères de la Voix du Nord, c'est avec plaisir. Florence, Salonique, parce que je vois que Salonique est en train de renverser le Dynamo Zagreb en menant 3-0. Salonique, ça m'intéresse, et Fenerbahçe, Istanbul, la Turquie, la folie, Fenerbahçe... qui a déjà remporté le match aller 3-0. Pas mal. Et sinon, Molde, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et
Il est vite Londres et Genève.
Il vous faut, il vous faut une ville avec une température assez clémente. Il
alors, dites-leur d'aller en finale, comme ça vous irez à Athènes.
Bah non, mais Molde en avril, ça va. C'est pas la cata.
On pense à votre voix. Si ouais. On a besoin de votre voix.
Voilà. Et Molde, contre... ça a l'air joli. Je suis en train de regarder. C'est un joli petit port de pêche, hein, Molde. Donc, ouais, moi, Molde, moi, ça me va bien.
C'est pas là d'où vient un joueur de Lens qui a fait 6 mois l'année dernière?
Ah, si, Buxa.
Oui.
C'est pas
Buxa.
Non, Patrick Berg.
Patrick Berg. Bah, d'ailleurs, je pense qu'il y joue toujours. Hein.
Ouais, bah vous, du coup, vous voulez partir à Molde 2 et finalement, ce sera Bruges, vous serez à côté, vous serez chez les voisins.
Oh non, 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 après, c'est magnifique, Bruges. Non, mais Molde 2, sincèrement, pour la découverte, là, je suis en train de regarder les photos de cette ville, ça a l'air splendide. Allez, moi, je vote Molde 2 à 3000%. Mais voilà. Je sais pas s'ils sont en ballotage favorable ou pas, monsieur Bruges.
Molde 2, c'est victoire de Buzyn face à Bruges, justement, au match aller, là-bas, à Molde 2. Okay. Vous voyez comment il fait ses fiches, Sylvain Charlier?
Ouais,
on m'a glissé également, vous aviez la compo d'équipe, Sylvain, elle est officielle ou pas encore,
oui,
côté Lillois?
J'ai...
En venant aux choses sérieuses, bah,
a priori,
on parle
elle est officielle. C'est sur le site de l'UEFA, donc j'aurais tendance à dire qu'elle est officielle. J'ai toujours quand même un petit doute, mais
en
normalement,
cas,
c'est la bonne.
L'UEFA a de l'avance sur la Ligue 1, en tout cas, ils savent...
Oui, toujours. Ouais, c'est une petite tradition. Sur le site de l'UEFA, on a souvent accès à la compo 1h15 avant le coup d'envoi. Donc là, on est plus d'une heure, donc c'est bien. Donc normalement, sur le banc, plusieurs joueurs cadres. Chevalier, Yoro, Ismaili, André, David. Ça donne la compo suivante en 4-2-3-1. Manon, Thiago Santos, Diakité, Alexandro en charnière centrale, les deux. Gudmundsson pour remplacer Ismaili. Bouadi qui était annoncé titulaire hier par le coach à côté de Ben Taleb. Et puis devant pour épauler Youssouf Yazidche, Zegrova, Kabela, Haraldsson. Et j'espère qu'on va me mettre Haraldsson axial parce que moi je l'adore dans une position axiale et c'est Kabela qui aura le brassard de capitaine.
On n'était pas trop mal, messieurs, à part Leni Yoro là.
Et ouais, la grosse surprise c'est Leni Yoro, hein.
Ouais, le reste on l'avait. Hein.
Ouais, le reste on l'avait. Entre nous, si on faisait un cumul de ce qu'on disait, on était de bon. Hein.
On était pas mal. Donc on fait souffler les Niro, c'est l'information aussi de cette composition d'équipe. Sylvain, Benjamin André, André Gomes également sur le banc.
Ouais, en effet. On fait souffler Leni Yoro, on fait souffler Benjamin André, on fait souffler Jonathan David. Donc, en effet, c'est tout à fait cohérent. On fait souffler Chevalier aussi. Mais l'équipe, elle garde un visage très séduisant. Une équipe qui est totalement capable d'aller sortir cette formation du Sturm Graz en gagnant le match retour. Puis, par exemple, je pense qu'un joueur comme Kabela, il a des choses à montrer. Gudmundsson, il doit encore continuer à montrer des choses. Bouadi aussi. Et Yazidche à la pointe aussi. Il a besoin de montrer à son coach qu'il peut compter sur lui parce qu'il est un peu sorti du 11 dernièrement.
Effectivement, ce sera le dernier sujet de ce Tribune Nord 19h-20h sur France Bleu Nord, l'avenir de Rémi Kabela et de Youssouf Yazidche. Est-ce que c'est l'occasion de marquer des points également, Cédric Van Goten, pour ces deux joueurs-là? On les a ciblés parce qu'ils sont un peu en difficulté sur la partie championnat. Yazidche a souvent brillé en Coupe d'Europe. On se souvient en tout cas, en termes d'émotion, que Yazidche, c'est Coupe d'Europe, c'est Milan AC notamment, c'est meilleur buteur historique du LOSC en Coupe d'Europe. Rémi Kabela, on a vu qu'il est un peu frustré aussi de son manque de temps de jeu.
Alors, tous les matchs sont importants pour marquer des points. Les deux joueurs ne sont pas dans le même cas de figure. Kabela, il a quand même une blessure. C'est pour ça qu'il y a eu un peu un coup d'arrêt sur sa deuxième partie de saison. Mais oui, ce soir, c'est l'occasion pour eux. Mais je le redis, Kabela, son entrée contre Rennes était très intéressante. Donc lui, c'est plutôt revenir dans le jeu. Yazidche, lui, il a toujours eu depuis le début de saison, de toute façon, ce rôle de remplaçant, joker de luxe, donc ça change pas grand-chose pour lui.
Donc ça changera rien. Samir Gelzifi, est-ce qu'ils ont des points à gagner ou pas spécialement? Ça fait juste partie de la rotation et ça ne changera pas selon leur match d'aujourd'hui?
Non, je pense pas que ça changera, surtout que maintenant on connaît bien les deux joueurs-là. Je pense que Rémi Kabela, il est, comme on l'a dit, c'est plus pour sa blessure, mais aussi je pense qu'il est plus important dans le vestiaire qu'un Youssouf Yazici.
Il est un des vice-capitaines.
Exactement. Donc, ce qui fait que on aura plus de facilité à le remettre par la suite qu'un Youssouf Yazici qui avait pour habitude d'avoir ce rôle-là.
Lucas Aubin, Youssouf Yazici, alors justement, Kabela revient, Kabela a un rôle un peu de joueur expérimenté. Youssouf Yazici, est-ce que lui, son temps de jeu est aussi en train de chuter en fait actuellement, avec la forme de Jonathan David?
Ouais, voilà, c'est surtout ça, on a retrouvé un Jonathan David au top de sa forme, et pour autant, Youssouf Yazici a bien tenu ses missions quand Jonathan David avait dû, de son côté, un coup de moins bien. Donc, marquer des points pour des joueurs de leur âge et de leur expérience, non. Je pense qu'ils n'ont plus trop de choses à prouver. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue confiance, que fait Paulo Fonseca aujourd'hui, c'est super important. Et ça montre aussi sa qualité d'entraîneur, de manager aussi un groupe. Parce qu'entraîner, c'est avant tout manager. Il faut manager des égos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si Paulo Fonseca avait mis les trois quarts de son équipe type, je pense qu'il aurait pu perdre aussi des joueurs. Donc voilà, c'est bien fait. Yazici, à lui de s'accrocher. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un joueur qui traîne un peu son spleen depuis 2-3 ans. Donc ça reste un peu une énigme pour moi, ce joueur.
L'occasion pour lui de briller peut-être aujourd'hui face au Sturm Graz. Tribune Nord se termine. Messieurs, merci beaucoup d'être venus. Lucas Aubin, Samir Gelzifi, Cédric Van Goten également. Un petit mot. Votre prochain match, Samir, ce week-end, National 3, c'est face à
Vimy, à l'extérieur.
Vimy. Très bien, attention à cette équipe coachée par Sébastien Lerail. Et merci à vous, messieurs, d'être venus dans Tribune Nord. On continue de parler de ce match du LOSC face à Sturm Graz. Coup d'envoi 21h.
Le ch'ti qui gagne. Agnès Delbar, Zef sur France Bleu Nord.
Qu'est-ce qu'on gagne cette semaine dans le ch'ti qui gagne?
Vous aimez les blind tests, oui, les jeux d'arcade, les karaokés, j'en passe, qu'en bref, vous amusez.
Je crois que c'est ce dont j'aurais besoin.
C'est dingue, c'est là qu'on va. All you need, un espace de jeu, de restaurant.
Tout ça pour vous, une carte cadeau de 150€ pour profiter de tout à All You Need à Saint-André.
Et vendredi, tirage au sort, 40€ de bonus, l'extra balle en fait.
C'est tous les jours dans le ch'ti qui gagne de 11h à midi.
Sur France Bleu Nord, évidemment.
France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Nord.
Il est 20h sur France Bleu Nord.
France Bleu Nord, la radio pour suivre tous les matchs du LOSC.
Le LOSC opposé au club autrichien de Sturm Graz, coup d'envoi 21h donc sur l'antenne de France Bleu Nord, évidemment match en direct et en intégralité, France Bleu Nord, francebleu.fr, l'application mobile ici également. Je vous fais suivre en fil rouge également le match de l'OM, tiens, qui est mené sur la pelouse de Villarreal. C'est un huitième de finale d'Europa League cette fois-ci. L'Europa League 2-0 à l'instant pour les Espagnols. Il y a eu 4-0 pour les Marseillais à l'aller. Pour l'instant, l'OM se qualifie pour les quarts de finale. De notre côté, on va retourner à la Decathlon Arena, Stade Pierre-Mauroy, où le LOSC, après avoir gagné 3-0 face au club autrichien de Sturm Graz la semaine dernière à l'extérieur, reçoit justement ces Autrichiens. Au commentaire, Sylvain Charlet, qui sera en compagnie de Mehdi Izeguin. Sylvain Charlet, je me tourne vers vous. Les tribunes sont désormais accessibles aux quelques 20 000 supporters lillois à peu près présents. Est-ce que tout doucement ça se garnit ou on traîne pour rentrer dans le stade?
Ah bah on traîne, hein. Il y a quand même très très peu de monde. Non, c'est vraiment clairsemé. On commence à avoir des gens apparaître dans les tribunes des deux COP, avec notamment les DVE. Et puis en face de moi, oui, il y a quelques supporters qui arrivent dans le premier anneau, dans le deuxième anneau. Et puis il y a surtout les supporters du Sturm Graz qui sont là-bas, dans ma diagonale droite, dans leur parkage tout en haut. Donc voilà, pour l'instant, c'est vraiment très très calme, trop trop calme, décevant.
J'aime pas trop, bon, trop beaucoup ça, dirait Jamel Debbouze dans une célèbre réplique de cinéma. Sylvain, j'ai pris en compte la prudence de Cédric Van Goten dans Tribune Nord à l'heure d'avant. Il y a 2-0 pour Villarreal là face à l'Olympique de Marseille. Je vais être un peu plus prudent sur le match du LOSC de ce fait, puisque les Lillois avaient gagné 3-0 au match aller. On rappelle la composition d'équipe, le 11 de départ de Paulo Fonseca qui a beaucoup fait tourner en prévision aussi du match à Brest dimanche à 13h.
Ouais, ce sera à 13h, ça va arriver très très vite. Donc Chevalier, Yoro, Ismaili, André et David ne débutent pas ce match. On retrouve donc Manon dans le but, qui n'a jamais déçu quand il a été titularisé. Défense centrale, Diakité Alexandro. Santos, Gudmundsson dans les couloirs. Bouadi, Bentaleb dans l'entrejeu, milieu récupérateur. Pour animer le jeu, Zegrova, Kabela, Haraldsson. À voir où va se placer Haraldsson, où va se placer Kabela. Quid du poste axial, quid du poste de gaucher. Et puis Yazidche à la pointe de l'attaque, Adrien.
Est-ce qu'on a la composition également du Sturmgratz?
Oui. Alors, le Sturmgratz qui va évoluer dans son schéma classique en 4-3-1-2 avec Jaros dans le but, une défense centrale Wüthrich Lavallée, Affen Gruber qui était titulaire la semaine dernière n'est pas dans le 11. Gazibegovic et Johnston seront les latéraux. Schneg, le latéral titulaire la semaine dernière, est lui aussi sur le banc. Dans l'entrejeu, Stankovic devant la défense avec Horvat et Irlander. Pour mener le jeu, le géorgien Kitashvili est devant Biret avec Vlodarzik, le polonais, parce qu'on le rappelle, Sarkaria, l'Autrichien, l'attaquant autrichien qui était titulaire la semaine dernière, s'est blessé à la cheville au moment de tenter sa chance face à Lucas Chevalier. Et malheureusement, sa cheville s'est bloquée dans la pelouse du stade du Sturmgratz et il s'est blessé grièvement à la cheville.
Huitième de finale, le retour de la compétition aujourd'hui, Europa League Conférence, coup d'envoi 21h pour ce match entre le LOSC et le club autrichien de Sturmgratz. Je vous fais un petit bilan, Sylvain, à l'heure de jeu sur les quatre matchs qui ont déjà commencé, 18h45, le coup d'envoi de certaines rencontres. 0-0 entre Fenerbahçe et l'Union Saint-Gilloise. Au match aller, Fenerbahçe l'avait emporté 3-0 et donc prend pour l'instant la direction des quarts de finale. La Fiorentina vient d'ouvrir le score face au Maccabi Haïfa et l'avait déjà emporté à l'extérieur 4-3 lors du match aller. La Fiorentina en passe de se qualifier. Sylvain, peut-être une chance sur 7 pour vous d'aller à Florence dans 3 semaines. Le Dynamo Zagreb face au PAOK Salonique. Le PAOK mène 3-1. Il y avait 2-0 pour le Dynamo Zagreb lors du match aller. Pour l'instant donc, direction les prolongations. On le rappelle, plus de buts qui comptent double à l'extérieur. Cette règle est désormais terminée. Et Pilsen face au Servette Genève, 0-0 à l'heure actuelle. Lors du match aller, il y avait déjà 0-0. Prolongation en vue également, mais il reste une petite demi-heure de jeu. Je vous rappelle les autres matchs qui vont commencer à 21h. Ajax, Aston Villa, 0-0 à l'aller. Molde avait gagné 2-1 face à Bruges. Et l'Olympiakos s'était incliné à domicile face au Maccabi Tel Aviv. 4-1, les Lillois, eux, ont fait le plus dur, mènent 3-0 à la mi-temps de ces huitièmes de finale. Le match retour, il aura lieu dans 55 minutes et ce sera évidemment sur l'antenne de France Bleu Nord. Tout de suite, l'aventurier indochine Nicolas Sirkis qui est de retour sur l'antenne de France Bleu Nord. L'occasion pour moi de vous dire que c'est Vincent qui réalise cette émission, victorien au standard de France Bleu Nord. Et pour venir participer à cette grande soirée foot jusqu'à minuit, le numéro de téléphone, vous le retenez, 03 20 55 89 89.